Place Info.
Bonsoir à la une, les manifestations de policiers à Paris, toujours les inquiétudes à Rouen, l'audition de Sylvie Goulard à Bruxelles et l'offre ultime de Boris Johnson à l'Europe. C'est dans Les Informés avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27, avec Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste de la sécurité globale, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et avec vous Maëlle Thierry, journaliste et chef du Pôle France à l'Obs. Bonsoir à vous, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Ils étaient 22 000 policiers en colère dans les rues de Paris, une marche inédite pour dénoncer les 52 suicides survenus depuis le début de l'année et des conditions de travail, il faut le dire, désastreuses, ces témoignages dans le cortège.
On a une pression énorme dans notre profession, à travers des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, à travers des rappels sur des jours de repos.
Aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on améliore nos conditions de vie et de travail. C'est le quotidien du policier qui ne cesse d'être alarmant, les moyens, les véhicules et dernièrement l'attaque sur nos retraites. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est du respect, de la considération et qu'au-delà des paroles, nous ayons des actes concrets.
Audrey Goutard, vous voyez, je l'ai faite ce soir. Audrey Goutard, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
Si, il y a eu une très grosse manifestation unitaire dans les années 2000. Excusez-moi, 2001, merci. En 2001, pour des raisons assez similaires finalement. Moi, j'ai suivi pendant 20 ans les affaires de police-justice pour différents médias et France 2. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je les vois, tous ces policiers dans la rue, je comprends bien ce qu'ils veulent dire. C'est vrai que lorsque j'ai débuté dans cette spécialité, les policiers dans les commissariats, il y avait une espèce d'unité, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose qu'ils ont l'impression d'avoir perdu. Et d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Ce sont des métiers difficiles, avec des morts, avec la fréquentation de la délinquance ou de la douleur. Et effectivement, on se retrouve avec presque les mêmes revendications et les mêmes difficultés psychologiques et sociales.
Driss Aït Youssef, tout de même, la situation s'est quand même dégradée depuis.
Elle s'est dégradée avec un facteur déclenchant, c'est d'entre 2007 et 2012, vous avez eu les RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, environ 12 500 postes de policiers, gendarmes de supprimés. Ce qui fait que...
Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est une partie de ce qui se passe aujourd'hui, avec un accroissement considérable d'heures supplémentaires, on compte 22 millions d'heures supplémentaires, et une dégradation, si vous voulez, des conditions de travail. Alors à côté de ça, les quinquennats successifs ont recréé des emplois, mais toute la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir, comme a dit ce secrétaire général d'Alliance, c'est à la fois les conditions de vie des policiers qui vivent donc des drames humains, c'est-à-dire que vous avez des policiers qui vivent en colocation, d'autres qui vivent dans leur véhicule parce que se loger sur la capitale, vrai déclassement, c'est vrai, et des conditions de travail, c'est vrai que si le matériel, notamment les commissariats et le matériel mis à la disposition des policiers aujourd'hui n'est pas, j'ai envie de dire, à la hauteur, en tout cas des enjeux et de ce qu'on attend des policiers. Donc et aujourd'hui, même avec un budget en hausse, vous avez un retard qui est considérable qu'il faut rattraper et qui mettra très certainement quelques temps avant d'avoir une police qui soit finalement à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui.
Maëlle Thierry, pour poursuivre ce qui a été dit par Audrey Goutard et par Driss Aït Youssef, cette police, du moins une partie de la police nationale, celle qui s'occupe de sécurité publique, ces gardiens de la paix, cette police est laissée à l'abandon aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire les choses comme cela ?
Elle n'est pas laissée à l'abandon, mais elle manque indéniablement de moyens. Il y a un rapport parlementaire, je crois, l'année dernière, qui pointait bien le fait que, du point de vue de l'état des bâtiments, des commissariats, je crois qu'il y avait 60% des commissariats qui avaient besoin de travaux de rénovation. Les missions de la police, elles sont de plus en plus larges. Il y avait cette menace terroriste, il y a l'état d'urgence. Tous ces derniers mois, il y a eu la gestion de la crise des Gilets jaunes qui n'est pas terminée.
Donc, qui laisse des traces, parce qu'il y a une mobilisation permanente, semaine après semaine.
Absolument, ouais. Et il faut ajouter à cela, en plus, le sentiment chez certains de ces policiers d'une image dégradée, c'est-à-dire d'être des mal-aimés, quoi.
Oui, vous êtes d'accord avec cela, Stéphane Vernet, ces policiers mal-aimés, une image abîmée, alors que, on l'a dit, redit mille fois, Il y avait eu, au sortir de l'épisode des attentats, une police qui avait été quand même saluée par les Français.
Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a un problème de moyens, effectivement. Vous avez évoqué la RGPP, la réduction des effectifs, des moyens alloués à la police, donc des conditions matérielles qui se dégradent, ça a été très bien dit. Mais il y a aussi le fait que les missions ont changé, ce que vient de dire Thierry Mael. Et le décalage aussi vient du fait que, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de policiers qui n'ont pas signé au départ, qui ne se sont pas engagés dans la police pour faire ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui. Audrey Goutard citait les médecins tout à l'heure, les urgences hospitalières, c'est le même problème. Mais je pense qu'on pourrait ajouter les pompiers. Les pompiers ont exactement le même problème. Quand vous êtes sapeur-pompier, vous dites, gamin, je vais devenir pompier parce que je veux éteindre les feux, je veux aller sauver les gens, etc. Vous avez aujourd'hui, dans le champ d'action des pompiers, un certain nombre d'interventions ou de missions qui sont de l'ordre du social et du purement social. Parce que, en fait, les pompiers, les médecins urgentistes et les policiers, aujourd'hui, sont confrontés à une société qui va mal, qui va très mal, de plus en plus mal. Et aujourd'hui, donc, au lieu de courir après les voleurs, au lieu d'éteindre des incendies, au lieu de soigner, ils ont aussi cette fonction d'intervention vis-à-vis de publics qui vont très mal et qui les prennent régulièrement pour cible, pas seulement dans les manifs des Gilets jaunes. Et il y a une perte de sens qui est très forte. Et cette perte de sens, vous avez ouvert avec la problématique des 52 policiers qui se sont donnés la mort aujourd'hui. Cette perte de sens, je pense qu'on l'observe aussi chez les agriculteurs. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais si, quand vous êtes paysan, vous dire, moi, je veux nourrir les hommes, et on vous dit, vous êtes un pollueur, vous polluez, vous empoisonnez les gens, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Et les policiers vivent la même chose, notamment dans les manifs avec les Gilets jaunes.
Audrey Goutard,
l'image qu'on leur envoie est terrible.
Il a raison, Stéphane Vernet. Ces policiers, presque d'un point de vue du niveau social, du déclassement, disais-je tout à l'heure, pourraient presque être des Gilets jaunes en puissance.
Alors, je voudrais d'abord redonner un chiffre, c'est-à-dire que le dernier sondage dit que 70% des Français apprécient sa police. Donc,
on n'est
pas entre ce qu'on entend.
Il y a quand même
30%
de désamour.
Voilà, 30% de désamour qui a toujours existé. Le chiffre est stable depuis des années. Le deuxième point, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez 150 000 policiers en France. Il manque évidemment des policiers. D'ailleurs, on voit qu'il y a 23 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. On comprend bien qu'effectivement, il manque des policiers et que l'État s'est désengagé. Mais le problème, j'en discutais avec la direction de la police nationale, c'est qu'ils n'arrivent pas à embaucher, selon les critères demandés, ils n'arrivent pas à embaucher aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le métier de policier a une vraie perte de sens et donc on n'arrive pas à trouver des candidats qui auront le profil requis.
Allez, on va parler de ces soucis au sein de cette police, parfois souvent vilipendés lors des manifestations, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Des avancées positives, mais il reste des points problématiques, explique la Commission européenne après une nouvelle proposition de Boris Johnson pour trouver un accord sur le Brexit. Le Premier ministre britannique soumet un compromis sur la frontière irlandaise, mais cette proposition menace le marché unique européen, d'après Bruxelles, qui est en fait une ligne rouge. Il reste donc encore beaucoup de travail à faire, conclut le négociateur en chef Michel Barnier. Londres prévoit, quoi qu'il en soit, de sortir de l'Union européenne le 31 octobre. L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a certainement entraîné des émanations de dioxine dans l'air. C'est possible, annoncent les autorités, qui ont relevé des taux relativement faibles, mais supérieurs à la normale sous le panache de fumée. Ces dioxines sont des matières toxiques et persistantes dans l'environnement. Elles présentent des risques pour la santé, surtout en cas d'ingestion. Comme pour tous les Français, le régime de retraite des policiers sera modifié, mais la dangerosité de leur métier sera prise en compte, assure le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner veut rassurer, alors que tous les syndicats de la profession appelaient à manifester aujourd'hui. 27 000 personnes ont défilé à Paris pour dire leur inquiétude sur la réforme à venir et dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. De très violentes manifestations en Irak en ce moment. Au moins 7 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Les contestateurs réclament plus d'emplois et de services publics. Et puis dans moins d'une heure, Lille reçoit Chelsea. Lyon se déplace à Leipzig en Autriche. C'est la suite de la deuxième journée de la Ligue des champions de football.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
52 fonctionnaires de police qui se sont donc donné la mort depuis le 1er janvier. Parmi les slogans entendus ces derniers mois pendant les manifs, il y a eu ce « Suicidez-vous » dont on a beaucoup parlé, qui a mis hors de lui ce matin Frédéric Pechenard, le vice-président LR de la région Île-de-France et surtout ancien DGPN, directeur général de la police nationale chez nos confrères de BFM TV.
suicidez-vous dans un métier où il y a autant de suicides, puisque nous avons dépassé la cinquantaine de suicides cette année, ce qui est énorme. Et cette espèce de joie malsaine qu'on a vue autour
d'un policier... Il y a le plaisir de voir un policier mort.
...qui s'était suicidé, m'a particulièrement choqué.
C'est le plaisir de voir un policier mort.
Oui, c'est ça. Et c'est particulièrement choquant.
Oui.
Franchement, il y a quand même des coups de pied au cul qui se perdent.
Maël Thierry, très en colère, Frédéric Pechner. Il y a eu d'autres slogans, hein. Il y a eu « Tout le monde déteste la police ». D'ailleurs, des gilets jaunes sont venus au contact de la manif aujourd'hui. Il y a une forme de rupture, même si Audrey Goutard appelait 70% des Français aiment les forces de l'ordre. Il y a une forme de dialogue interrompu aujourd'hui dans ce pays.
Je pense que pour la majorité des Français, effectivement, la confiance demeure. Ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est une forme de radicalisation de la contestation dans la rue. Avec des modes d'action très violents, enfin les Black Blocs tous les samedis, qui pour le coup prennent la police effectivement pour cible et de manière très très violente. Donc ça, c'est indéniable que de ce point de vue-là, il y a un changement pour la police, en tout cas de façon aussi régulière, aussi répétée. Elle n'avait jamais eu à gérer ça dans les dernières années.
Audrey Goutard, le ton a changé.
Le ton a changé. Alors Frédéric Pechner, qui a été, je vous le rappelle, un très grand chef de la police, très populaire en tout cas, disait ce matin justement que il y a eu en mai 68 le fameux CRS-SS qui a été vécu avec une grande violence parmi le corps policier. Et aujourd'hui, il y a effectivement « suicidez-vous ». Lui faisait un lien parfait entre ces deux expressions en disant que entre on n'avait pas connu de slogan aussi violent.
Mais je vais faire entendre un autre grand flic, hein, si je puis dire, Jean-Michel Fauvergue, l'ex-patron du RAID, devenu, vous le savez, député de la majorité cette fois, La République En Marche de Seine-et-Marne, qui est allé brièvement, a-t-il dit, à la rencontre de ses anciens collègues dans la manif aujourd'hui. Voici ce qu'il en a dit dans le 1850 France Info.
Discuter avec certains d'entre eux, effectivement, ils m'ont dit la même chose. Le métier de policier, pour moi et pour beaucoup d'entre nous et de notre génération, et j'espère des jeunes, c'est le plus beau métier du monde. Les gens rentrent.
C'est pas ce qu'ils disent, hein.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça que
pas
je. C'est pour ça que je voulais vous dire ça. Il faut qu'on réenchante ce métier-là. Il faut le réenchanter, ce métier. On ne peut pas se passer d'une police qui protège le citoyen. On ne peut pas.
Driss Saïd Youssef, comment est-ce qu'on réenchante aujourd'hui le métier de policier de terrain?
Ça prend du temps et ça prend beaucoup de moyens parce que. Par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a amélioré des conditions de vie personnelle. Quand on regarde qu'aujourd'hui, un policier, il a en moyenne un week-end sur quatre qu'il peut partager en famille, c'est extrêmement compliqué d'avoir une vie privée, étant entendu que la plupart des jeunes policiers qui sont affectés sur Paris et sa région viennent de province. Donc, ils n'ont pas de vie privée. Donc, là, aujourd'hui, il y a une réflexion qui consiste à leur donner un week-end sur deux pour qu'ils puissent souffler un petit peu et en même temps avoir une vie privée. Quand un policier n'a pas de vie privée, quand un policier, à un moment donné, est logé dans des conditions dramatiques, quand un policier est mal managé, quand un policier a des conditions de travail qui ne sont pas conformes
management,
à ce qu'on
c'est
attend.
Important, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez évoqué cet aspect qui, pour moi, était inédit, le management des policiers.
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, vous avez deux types de police. Vous avez la police judiciaire et la sécurité publique. Aujourd'hui, dans les commissariats, on apprend aux commissaires qui sont des jeunes managers, qui sont censés manager, on leur apprend à optimiser la présence des effectifs sur le terrain et pas notamment travailler sur ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux. Et ça contribue d'une certaine manière aussi au malaise des policiers. Donc il faut y mettre, c'est vrai, des moyens. Il y a aussi des policiers, on parle effectivement, et on a raison de parler des policiers qui se suicident. Il y en a 52 depuis le début d'année, mais vous avez énormément aujourd'hui de policiers qui sont en burn-out et des policiers qui sont traités notamment pour des conduites addictives, c'est-à-dire qui sont effectivement consommateurs de drogue ou d'alcool, qu'il faut traiter. Et ça, c'est aussi une difficulté. Alors après, effectivement, pour réenchanter, j'entendais ce qui a été dit, qui est très juste, c'est ça n'attire plus. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est obligé de dégrader les recrutements. C'est-à-dire que là, des profils qui ne passaient pas les écrits il y a encore quelques années, bah aujourd'hui, il faut bien recruter, donc on prend, c'est vrai, des profils qui, en principe, ne devraient pas être sur la voie publique. Ça crée... Et ça, c'est problématique.
Stéphane Vernet, pour poursuivre la démonstration de Driss Saïd Youssef, cette image qu'on a vue aujourd'hui, place de la Bastille, il y avait cette cinquantaine de cercueils, hein, factices évidemment, qui ont été exhibés, et puis ces policiers qui se sont allongés sur la voie publique avec des masques blancs. On sent quand même que cette colère va assez loin aujourd'hui. Ça m'a frappé personnellement. Hein. Je trouve que certes, il y a eu, comme le rappelait si bien Audrey Goutard, d'autres précédents. On a souvent cette mémoire qui s'en va parce que les années passent, mais là, c'est quand même une situation très particulière. On est après les attentats, après les gilets jaunes, après quelque chose de l'ordre de la fracture sociale, pour reprendre une expression célèbre, aujourd'hui avec notre police nationale.
Non, mais c'est un cri de désespoir. Il y a un côté, il y a quelque chose d'assez très frappant et d'assez touchant. Je pense que c'est, vous parliez de burn-out tout à l'heure. Je pense qu'il y a effectivement une partie de la police qui n'en peut vraiment plus. J'évoquais la perte de sens tout à l'heure, il faut avoir aussi en tête que pendant la séquence gilets jaunes avec des manifs tous les samedis, notamment à Paris, etc., vous avez une partie des effectifs de police qui sont mobilisés pour maintenir l'ordre, dont c'est pas le métier premier. C'est-à-dire, les CRS sont formés pour ça. Les gendarmes mobiles sont formés pour ça. C'est le cœur de leur métier. Par contre, tous les intervenants que vous voyez habillés en CRS, casqués, etc., équipés comme les CRS, mais avec des petites bandes bleues sur leur casque, en fait, c'est des policiers en tenue qui font ça. Et c'est quelque chose de très nouveau, quoi, qui a atteint une ampleur assez inédite. Ils sont pas forcément formés pour ça. Et que derrière, si vous voulez, je pense qu'ils le font pas avec beaucoup de plaisir. Et quand derrière, on leur renvoie l'image, tout le discours autour des violences policières, des blessés, etc., et des violences, il y en a eu des deux côtés, elles sont réelles. Mais si vous voulez, l'image qui est renvoyée, l'image qui est créée, et moi, je pense qu'elle génère un sentiment d'injustice très profond parmi ces hommes du rang qui vivent ça, qui encore une fois, eux ont signé en disant, je reprends l'expression qu'on a entendue tout à l'heure, c'est le plus beau métier du monde, ça devrait être le plus beau métier du monde, et l'image qu'on leur renvoie collectivement, c'est tout le monde déteste la police, c'est très violent.
Oui, et puis il y a eu ce policier qu'on a entendu sur France Info qui disait dans la manifestation, je ne veux pas que mon fils fasse ce métier demain. Audrey Coutard, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter quelque chose, parce que en fait, rien n'est jamais blanc et noir. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on étudie les cas de suicide dans la police et lorsqu'on étudie le profil des policiers qui se suicident, ça n'est pas dans les commissariats où il y a le plus de travail. Ça n'est pas dans les commissariats où on est le plus en activité, région parisienne, dans les cités, etc., que l'on se suicide. Parce que dans ces commissariats-là, il y a encore une cohésion, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de groupe. Vous faites partie d'une brigade anticriminalité, vous êtes ensemble, il y a une solidarité face à l'adversité de la cité, etc. Et ça n'est pas là que les policiers se suicident. C'est plutôt dans les commissariats, effectivement, périphériques, de province, où les policiers ont l'impression d'être abandonnés par l'État. Ce sentiment d'abandon existe vraiment.
Oui.
Et c'est un point important. C'est toujours intéressant d'étudier les profils, et en l'occurrence, des policiers qui se suicident.
Alors, ce sentiment d'abandon, en attendant le rappel de l'info, tiens, qui arrive? Allez, c'est Jules Dequisse qui va avoir la parole dans un instant. On va écouter dans une minute ce qu'en a dit Christophe Castaner sur la question comment on en sort, quelle serait la disposition à prendre assez rapidement. On écoutera le ministre de l'Intérieur dans une minute, mais tout d'abord 20h et 20 minutes sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
En un peu plus de 3 heures cet après-midi, le numéro vert mis en place pour informer sur l'incendie de l'usine Lubrizol a reçu plus de 150 appels. La plupart des questions ont porté sur la comestibilité des fruits et légumes ou la potabilité de l'eau. Les autorités annoncent ce soir la présence de dioxines sous le panache de fumée. Ce sont des matières toxiques et persistantes dans l'environnement. Il est possible que la catastrophe de jeudi dernier en soit à l'origine. Cela doit être confirmé par des analyses complémentaires. Le tribunal de commerce de Bobigny dira vendredi s'il retient l'offre de reprise présentée pour reprendre la compagnie XL Airways. Si ce n'est pas le cas, alors l'entreprise qui emploie 570 personnes sera liquidée. Cette offre ne nous a pas paru offrir toutes les garanties nécessaires, a déploré tout à l'heure à la sortie de l'audience le PDG de la compagnie, placé en redressement judiciaire. Aux États-Unis, Bernie Sanders suspend sa campagne. Le candidat de 78 ans a subi une opération en urgence pour un problème artériel. Il s'est maintenu jusqu'ici dans le peloton de tête pour l'investiture à la primaire démocrate en vue de la présidentielle, avec deux autres septuagénaires, Joe Biden et Elizabeth Warren. Les Corréziens pourront rendre hommage à Jacques Chirac samedi à Saran, dans le musée dédié à l'ancien président de la République, mort la semaine dernière à 86 ans. Il y aura une cérémonie officielle après un moment de recueillement plus privé sur la tombe familiale à Sainte-Féréole. Et puis après 3 épreuves, le Français Kevin Mayer assume son statut de favori sur le décathlon des championnats du monde d'athlétisme. Il est en tête et même en avant sur son propre record du monde. Après le 100 mètres, la longueur et le lancer du poids, les athlètes en sont maintenant au saut en hauteur.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous allons écouter Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, aux 4 vérités sur France 2 ce matin, qui a tenté de déminer la crise, en annonçant notamment de nouveaux effectifs.
Il y a une colère que je comprends, une colère que j'entends. Le budget de la police nationale aura augmenté depuis que nous sommes en responsabilité de plus de 1 milliard d'euros. Ça n'est pas rien. Dans le budget que je vais présenter dans quelques jours, il augmente de 5,3%. On a fait le choix à la fois du recrutement. Il y aura 1398 équivalents temps plein supplémentaires dans la police l'année prochaine.
Driss Aït Youssef, il y a une donnée comptable, un double, 1 milliard et 1400 à peu près effectifs nouveaux. C'est la clé.
C'est pas le milliard que je retiens, c'est 5,3% du budget de la police, de la gendarmerie, c'est environ 7,7 milliards, c'est-à-dire 385 millions d'euros. Pour aujourd'hui éponger les heures supplémentaires, c'est-à-dire les 22 millions d'heures supplémentaires que réclament les policiers, c'est environ 270 à 300 millions d'euros. Et vous voyez bien qu'il faut un rattrapage considérable sur le plan immobilier, et là on estime qu'il faudrait environ une enveloppe d'un milliard si on veut effectivement être à niveau. Donc on voit bien que la difficulté, c'est une équation extrêmement difficile, surtout quand le ministre de l'Intérieur annonce 1300 recrutements. Parce que vous avez un effet qui est un effet ciseau, c'est-à-dire que progressivement, vous avez l'augmentation, en tout cas, de la masse salariale, c'est-à-dire que la masse salariale représentait il y a quelques années 80% du budget, aujourd'hui c'est 90% du budget. Ce qui vous reste 10% de votre budget qui est consacré à la fois à l'investissement et au fonctionnement. C'est peu, très peu, trop peu pour la police nationale.
Maël Thierry, donc la solution est peut-être ailleurs. Elle n'est pas seulement comptable, comme l'explique si bien et de façon très détaillée à l'instant Driss Aït Youssef.
Non, en même temps, la difficulté, c'est quand même une difficulté de moyens humains, de moyens financiers, et pour le gouvernement actuel, de gérer le temps. C'est-à-dire que ces moyens-là, le temps que ça soit débloqué, que ça se mette en œuvre, ça prend du temps. Et on voit bien que pour le gouvernement, il y a une urgence, c'est de pas voir surgir un nouveau front social. La rentrée est déjà compliquée. Et bon, évidemment, les policiers, le gouvernement a peut-être encore plus besoin que d'autres corps de la période.
Audrey Gouttard, vous êtes d'accord avec Maël Thierry, il y a le temps qui court là, et puis au fond, le gouvernement est face à une nouvelle énigme. Ce sont les policiers cette fois qui sont dans la rue. Hein.
Et de toute façon, on rejoint, et on peut tourner le problème dans tous les sens, c'est toujours les mêmes causes. C'est-à-dire l'État, et ce n'est pas du fait de ce gouvernement-là, ça date d'il y a 20 ans, l'État n'est plus présent dans les face à la misère des autres. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des hôpitaux, ça se retrouve dans la police, c'est l'enseignement. Effectivement, ce sont tous les fonctionnaires qui bossent dans ces administrations-là, ce sont des fonctionnaires qui bossent par vocation. Choisir de rester policier, c'est une vocation. Choisir de rester infirmière, ouais, c'est une vocation. Donc si, à un moment donné, l'État ne se pose pas et se dit pas, effectivement, qu'il va falloir réinvestir et soutenir ces fonctionnaires, fonctionnaires se trouveront dans la rue.
Alors, il y a ce dialogue, effectivement, parfois difficile avec la police, avec les forces de l'ordre. Stéphane Vernet, je vais vous soumettre, ce qu'en a dit ce matin Adrien Quatennens, qui était interrogé sur le fameux mot « les barbares » lâché par Jean-Luc Mélenchon. Le député de la France Insoumise, député du Nord, invité de France Info, a souhaité plutôt, lui, déporter la critique sur les choix opérés au niveau du ministère de l'Intérieur. On écoute Adrien Quatennens.
Il ne s'agit pas de détester la police. D'abord, à chaque fois que nous mettons en cause, y compris la doctrine de maintien de l'ordre, il faut que les policiers de ce pays entendent que ce ne sont pas eux qui sont visés. Nous, politiquement, nous mettons en cause les donneurs d'ordre. Et le premier d'entre eux, Christophe Castaner, qui a tout de même à son bilan de ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'opérations censées maintenir l'ordre, lors des manifestations des Gilets jaunes, une vingtaine de personnes éborgnées, 5 mains arrachées, plusieurs personnes qui sont décédées. Bref, c'est un bilan qui est désastreux. Et ce sont les donneurs d'ordre qu'il faut mettre en cause, pas les policiers directement.
Stéphane, dernier commentaire sur ce qu'a dit Adrien Quatennens.
Il y a un vrai problème sur la question du maintien de l'ordre. On l'a vu, effectivement, le bilan est désastreux. Le problème, c'est que les violences, elles ont lieu des deux côtés. Et en termes de communication, il a beau dire que finalement, quand Jean-Luc Mélenchon parle de barbares au propos des policiers, c'est pas en compte des policiers ou c'est plutôt contre les donneurs d'ordre. Moi, je veux bien, il explique tout ce qu'il veut, mais c'est pas comme ça que c'est ressenti et c'est pas comme ça que c'est vécu par les policiers eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils revoient aussi leur com.
Driss Aït Youssef sur les instructions données par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est là le cœur du débat aussi?
J'ai entendu les propos du député de la France Insoumise, c'est un peu la grande tarte à la crème du moment, c'est toujours le maintien de l'ordre, sans savoir même ce que c'est le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est la police administrative, faire en sorte que les gendarmes mobiles et les CRS sont là pour encadrer la manifestation, parce que la manifestation, c'est une liberté qui est constitutionnellement reconnue, et leur rôle, c'est de faire en sorte, en période de menace terroriste que la manifestation se passe bien. Ensuite, effectivement, et on est dans un autre registre quand il y a des violences contre les policiers et les gendarmes, mais aussi contre les biens et les personnes, qui fait qu'on est dans un autre registre, c'est celui de la police judiciaire, où là, on a des interventions musclées de la part, ce qu'on appelle des DAR et aujourd'hui des BRAF, c'est-à-dire des policiers de la brigade anticriminalité, qui là font usage du lanceur de balles de défense. Alors, quelquefois, ils sont pas formés pour intervenir dans des circonstances de manifestation, et donc il faut pouvoir à un moment donné les former correctement. Donc oui, il y a eu des accidents, mais on peut pas considérer que les policiers ont des consignes de tirer sur des manifestants, ceux qui viennent manifester dans la joie et dans la bonne humeur, et ni le ministre de l'Intérieur, que je ne connais pas, mais je suis pas certain qu'il a des instructions pour réprimer des mouvements sociaux.
Allez, on va marquer une pause dans les informés, nous allons revenir dans un instant avec la situation toujours inquiétante à Rouen, et nous évoquerons les questions européennes, l'audition non pas d'Audrey Goutard mais de Sylvie Goulard, la situation avec le Brexit de Boris Johnson. On se retrouve dans quelques minutes.
Bon, demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures ?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi ?
J'ai oublié le code Wi-Fi. Une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
CAFPI, expert en crédit, recrute. On n'a pas tous la chance de devenir exceptionnel. Vous si. Trouvez un job à la hauteur de vos ambitions sur recrutement.cafpi.fr.
CAFPI, propulseur de talent. Courtier en opérations de banque et assurance, immatriculé à l'ORIAS.
Rejoignez-nous sur recrutement.cafpi.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Les températures minimales vont chuter, en particulier sur une large moitié nord, descendant sous la barre des 10 degrés. Localement, le mercure peut même descendre sous le 0 degré. Demain après-midi, les températures seront comprises entre 17 et 22 degrés dans le sud-ouest, 20 à 27 degrés autour de la Méditerranée et 14 à 19 degrés sur le reste du pays. Demain, le temps sera globalement calme avant l'arrivée d'une perturbation sur le nord-ouest du pays l'après-midi, qui apportera un peu de pluie en Bretagne. Sur la moitié est, la matinée sera bien ensoleillée, mais il faudra composer avec des grisailles par endroits, notamment entre la Bourgogne, la vallée du Rhône et les vallées d'Auvergne. Plus à l'ouest, le ciel sera plus variable. De belles éclaircies arriveront à se dessiner au travers d'un épais voile nuageux. Ce voile nuageux sera plus dense en glissant vers l'est, s'étirant l'après-midi entre les Hauts-de-France et le delta du Rhône. Le ciel va s'éclaircir temporairement à l'arrière de ce voile et à l'avant de la perturbation. Le soleil se montrant en matinée sur l'ouest Bretagne et l'après-midi de la Haute-Normandie au bassin parisien jusqu'aux Pyrénées.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. L'usine Lubrizol a été inspectée 39 fois depuis un incident en 2013, dont 10 fois ces deux dernières années. Selon Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, le site de Rouen, classé Céveso, était donc sous surveillance. 6 jours après l'incendie, l'Institut National de l'Environnement Industriel évoque la présence possible de dioxines émises au moment du feu. Des analyses sont en cours, les dioxines peuvent provoquer des cancers à moyen terme. Elles contaminent plusieurs aliments, en particulier la viande et les produits laitiers. Sylvie Goulard attend ce soir la décision du Parlement européen sur sa désignation comme commissaire européenne. La française a été choisie par Emmanuel Macron, mais ce sont les eurodéputés qui ont le dernier mot. Aujourd'hui, Sylvie Goulard a été entendue et questionnée en particulier sur sa mission de consultante pour un groupe américain. Alors qu'elle était députée européenne, entre 2013 et 2016, elle avait perçu plus de 10 000 euros par mois. Voici sa réponse.
J'ai tout déclaré. Tout était légal, c'est-à-dire que le Parlement permettait en tout cas à l'époque où j'y étais, enfin sauf erreur de ma part, c'est toujours le cas, d'avoir une activité professionnelle. On peut considérer que c'est opportun ou pas, ça c'est une décision qui appartient aux parlementaires. Simplement, je crois que dans un état de droit, on peut questionner, c'est pour ça que je vous réponds volontiers, mais on ne peut pas jeter la suspicion simplement sur le fait qu'une personne a travaillé. Et a travaillé à quoi ? À promouvoir l'intégration européenne. Donc je ne regrette pas le mouvement qui m'a poussé à essayer de faire des choses avec des gens qui avaient de l'influence et qui avaient du talent. Je me suis dit que, après coup, effectivement, que peut-être c'était une chose qu'il aurait fallu combiner différemment.
La décision du Parlement est attendue dans la soirée. Des sirènes, quelques pétards et les couplets de la Marseillaise entonnés ça et là. 27 000 policiers sont ainsi descendus dans la rue aujourd'hui à Paris pour exprimer leur épuisement, travailler 6 week-ends sur 7 avec de moins en moins de moyens, exprimer aussi leur colère face à la violence des propos de certains responsables politiques et défendre aussi leur régime spécifique de retraite. 3 mois après le meurtre d'une jeune fille près de Perpignan, un suspect est passé aux aveux aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans confondu par son ADN. Priscilla avait disparu début juillet à Estaguel après avoir participé au bal des pompiers. Son corps avait été retrouvé dans le cimetière de la commune. À l'étranger, le Brexit et Boris Johnson souhaitent à nouveau suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, alors que les Européens émettent des réserves ce soir sur son plan de sortie de l'Union européenne. Donald Trump accuse quant à lui les démocrates de perdre leur temps avec des conneries. Les démocrates qui ont lancé la première étape d'une procédure de destitution à l'encontre du président américain. Les poubelles débordent dans les rues de Rome, attirant les râles, des goélands et même quelques sangliers. Pour la 7e fois en 3 ans, le conseil d'administration de la société qui est chargée de ramasser les déchets a démissionné aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis 2015, un vaste scandale de corruption impliquant des élus et des entrepreneurs perturbe les services publics à Rome. Le sport, le football, Lyon joue chez les Allemands de Leipzig ce soir en Ligue des Champions et Lille reçoit les Anglais de Chelsea. Ce sera à partir de 21h. 20h33, les informés, la suite, c'est tout de suite.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Audrey Goutard, journaliste France 2, présentatrice de Ligne Directe, c'est le vendredi à 19h30 sur France Info, Canal 27. Avec Driss Saïd Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit et spécialiste de la sécurité globale. Avec vous, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et avec Maëlle Thierry, journaliste et chef du pôle France à l'Obs. Alors les questions demeurent. 6 jours après l'incendie qui a détruit plus de 5000 tonnes de produits chimiques à l'usine Lubrizol de Rouen, les produits qui ont brûlé sont désormais connus, mais leur dangerosité pour la santé pose toujours question. 6 jours d'interrogation, ça fait beaucoup, de colère des habitants, des agriculteurs. Et au final, eh bien Édouard Philippe qui a reconnu ceci aujourd'hui dans l'hémicycle au Sénat.
Nous ne savons pas tout aujourd'hui. Parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps. Nous ne savons pas tout aujourd'hui. Ce que nous savons d'ores et déjà sur la qualité de l'air, c'est que tous les prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure et qui sont publics font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire à l'extérieur du site.
Stéphane Vernet, le Premier ministre dit « nous ne savons pas tout aujourd'hui », langage vérité. Peut-être aurait-il fallu commencer par cela au départ de la catastrophe ?
Mais complètement, c'est-à-dire que il y a le fait d'avoir voulu rassurer en disant non, les analyses sont bonnes, il n'y a pas de problème de qualité de l'air, etc. Et vous êtes en décalage total avec ce que vivent les gens sur place, avec ce qu'ils constatent, les odeurs, les maux de tête, les malaises. Enfin, il y a un hiatus énorme. Et vous avez en fait un appareil qui s'applique à dire non, tout va bien, soyez rassurés. Sauf que les mesures de qualité de l'air, elles sont faites sur un certain nombre de polluants qui correspondent pas forcément à ce qui est en train de brûler. Vous avez une problématique qui est constante, qui consiste à dire on va nous dire bon bah tel élément n'est pas a priori dangereux pour la santé, mais ce qu'on ne sait pas c'est comment il réagit dans l'atmosphère quand il brûle, quand il se mélange avec d'autres.
On ne sait pas.
Et ça, personne n'est capable de le dire parce que personne ne l'a jamais analysé. Donc dans cette affaire, la première des choses qu'il aurait fallu faire, c'est appliquer un principe de précaution maximale en donnant
des
consignes.
Vous voulez dire un principe de précaution dans la parole publique?
Et puis en donnant des consignes très fortes, peut-être même trop fortes dès le départ aux gens, de confinement, etc. Enfin voilà, on sait fermer les écoles quand il y a un épisode de canicule ou reporter des examens. Je veux dire, je pense que les pouvoirs publics ont probablement péché par excès d'optimisme. Ils vont le payer.
Driss Saïd Youssef, dysfonctionnement dans la parole publique, dans cette affaire
Incontestablement, mais c'est ce qu'on appelle dans mon domaine de la gestion de crise. C'est-à-dire que là, on est en crise. C'est-à-dire que, théoriquement, le représentant de l'État dans le département, le préfet, plutôt que de s'abstenir au début de tout commentaire, parce que c'était le silence au début, et puis ensuite, c'est circulé, il n'y a rien à voir, alors qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous aviez des gens qui avaient des nausées, des vomissements. Alors, il n'y a rien à voir, circuler, alors que les gens ne vont pas bien. Les élus locaux ont été presque, n'ont pas été forcément informé, il n'y avait pas eu de communication entre le préfet et les élus locaux. Les habitants habitants, bah, par voie de conséquence, eux, sont presque laissés à l'abandon. Et donc, on est dans une situation surréaliste avec, c'est vrai, et il faut bien l'admettre, une difficulté particulière, c'est celle de pouvoir analyser des cocktails, ça veut dire des produits entre eux qui se mélangent, et tout ça, effectivement, qui a brûlé. Et donc, ça prend un certain temps, sans évoquer, évidemment, le dépôt, effectivement, de ces matières sur tout ce qui est aliments, c'est-à-dire les fruits et légumes. Donc, du coup, on est dans une situation qui est particulière et qui va encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de défiance vis-à-vis de la puissance publique, parce que vous avez des riverains aujourd'hui qui s'organisent dans des associations pour eux-mêmes faire appel à un huissier, faire eux-mêmes des prélèvements. Vous avez d'autres habitants qui peuvent donner, qui souhaitent donner leur sang, et pour prélever tout ça dans des labos complètement indépendants. Donc, vous avez l'État qui fait ses propres analyses, ouais. Et puis vous avez des habitants qui s'organisent eux-mêmes aussi. Et donc, on sait bien que les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, vous allez avoir des résultats qui vont quelquefois être contradictoires. Qui a raison, qui n'a pas raison. Et tout ça, c'est à mettre, j'ai envie de dire, sur le compte d'une très mauvaise gestion de crise.
Très mauvaise gestion de crise, dites-vous. Alors, ce matin, c'est d'ailleurs Adrien Quatennens, qui était notre invité, qui nous expliquait que chez lui, à Lille, sur son Velux, dans sa maison ou son appartement, il avait vu un dépôt de matière grise. Donc, tout le monde se met à douter. Maëlle Thierry, il y a un affaiblissement aujourd'hui de la crédibilité de la parole publique.
Incontestablement, je trouve que cette affaire, elle le démontre de façon éclatante. C'est-à-dire qu'on voit bien que, quel que soit, je trouve, ce que la parole des autorités politiques, administratives et même sanitaires, d'une certaine façon, elle est immédiatement mise en cause. C'est-à-dire que même si les autorités administratives qui viennent de faire des résultats, enfin des analyses, arrive à face à la population en disant finalement c'est pas si dangereux que ce que vous pouvez penser, immédiatement c'est sujet à caution. Immédiatement les citoyens qui eux-mêmes font leurs propres analyses, on est effectivement dans une
vous avez raison,
le capital de la défiance. On comprend pourquoi, parce qu'effectivement les gens ont ce nuage, ces effets, cette odeur ou ce. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a un déficit de crédibilité, effectivement, de ce que peut exprimer le politique ou l'administratif aujourd'hui.
Quoi. Absolument. Et chaque jour ajoute son lot d'expertise scientifique, puisqu'aujourd'hui, on nous parle de risque de combustion mystérieuse de certains produits, de dioxine même, Audrey Goutard. Donc, c'est vrai qu'au fond, plus on avance, plus la parole publique s'additionne et plus elle est quelque part battue en brèche par une sorte de climat d'expertise permanente.
Et alors, vous avez noté que le Premier ministre avait demandé au préfet de s'entourer dorénavant pour tous ces points de communication qui auront lieu quotidien, tous les soirs, de s'entourer de sommités scientifiques pour pouvoir appuyer la parole publique qui est actuellement mise en cause. Alors, ce que je trouve étonnant, nous, on a des carrières journalistiques derrière nous, des catastrophes, on en a vu d'autres depuis Tchernobyl, si on doit remonter à Tchernobyl. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se retrouve toujours face à la même situation. En France, vous avez des process. D'ailleurs, nous étions sur un site qui est un site sensible, avec des process de sécurité, des process d'évacuation, etc. La communication n'est jamais prise en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans le process d'une zone comme celle-ci, pris en compte de comment va-t-on communiquer à la population, comment va-t-on gérer cette communication, etc.
Guerre, hein. Oui. Une mauvaise communication peut être désastreuse.
Oui, alors que les Anglo-Saxons savent très bien faire. Les Anglo-Saxons, ils vous réunissent les journalistes, ils vous les mettent dans un coin, et toutes les heures, ils communiquent. Même lorsqu'ils n'ont rien à communiquer, ils communiquent quand même. Et c'est une façon de montrer la présence de l'État. On en revient toujours à ça. Montrer la présence du pouvoir public face, effectivement, à un danger ou face à une crise.
La communication, donc, c'est vraiment l'arme absolue dans ce type de situation. On va y rester un petit peu sur cette thématique dans un instant. Tout d'abord, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info, Jules Dequis.
Il faut réenchanter le métier de policier, estime sur France Info l'ancien patron du RAID et député de La République En Marche, Jean-Michel Fauvergue. Il y a eu des efforts ces deux dernières années, selon lui, mais cela n'est pas assez. Un avis partagé par les 27 000 manifestants à Paris aujourd'hui. Une mobilisation historique salue les syndicats de police, tous unis dans le mouvement. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail et font un lien avec les 52 suicides dans la profession depuis le début de l'année. Alors que l'Organisation mondiale du commerce autorise les États-Unis à taxer les importations d'Airbus, le ministre de l'économie Bruno Le Maire estime qu'une résolution à l'amiable est la meilleure des solutions. Il fait planer sinon le spectre de sanctions de l'Union européenne en représailles. Donald Trump envisage de taxer à hauteur de 7,5 milliards d'euros les importations de l'avionneur européen pour sanctionner le versement de subventions publiques. Sylvie Goulard défend sa probité devant la Commission européenne. Elle est auditionnée avant une éventuelle nomination au marché interne. intérieur. Elle se dit clean, propre et en appelle au respect de la présomption d'innocence. Elle a notamment été questionnée sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Le jeune homme de 18 ans interpellé ce matin à Estagel près de Perpignan reconnaît avoir tué Priscilla début juillet. La jeune femme handicapée avait disparu après le bal des pompiers. Son corps, retrouvé dans le cimetière de la commune, présentait des traces de coups de couteau et de violences sexuelles. Et puis après trois épreuves, le Français Kevin Mayer est bien parti dans le décathlon des championnats du monde d'athlétisme. Il est même en avance sur son record du monde. En tête, c'est au lancer du poids qu'il a distancé ses adversaires. On dispute en ce moment le concours de saut en longueur.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons parler de cette audition de Sylvie Goulard évoquée à l'instant par Jules de Kiesmann. Encore quelques mots sur la situation à Rouen. Christophe Castaner a estimé normal et bien qu'une enquête judiciaire ne se fasse pas d'un claquement de doigts, a-t-il dit. C'est désormais le pôle de santé publique du parquet de Paris qui est en charge de ce dossier. Mais ça ne répond pas tout à fait à l'angoisse toujours des habitants de Rouen. Elisabeth Borne, au début de son audition, la ministre de la Transition écologique, devant la mission d'information créée par les députés à l'Assemblée nationale, elle aussi a tenté de se montrer rassurante.
Le Premier ministre a pris devant la représentation nationale l'engagement de transparence absolue. Car notre rôle n'est pas, comme je l'entends parfois, de rassurer coûte que coûte, mais bien de dire la vérité.
Et Saïd Tchousset, vous êtes rassuré ?
En partie, parce que ce qui fera que je serai rassuré, c'est effectivement cette communication régulière à destination des élus locaux et
ça c'est nécessaire
des
là pour la mission. Hein.
Ah bah, là, on est dans ce qu'on appelle classiquement de la gestion de crise. La gestion de crise, ça commence par il faut nommer la crise et puis ensuite, après, il faut être compatissant, j'ai envie de dire, avec les victimes entre guillemets. Et ce que fait Édouard Philippe, ce qu'a fait Elisabeth Borne, c'est de dire qu'elle comprenait évidemment l'inquiétude des habitants et qu'il fallait y répondre et que c'était quelque chose de tout d'extrêmement sérieux et qu'il fallait que toute la lumière soit faite. Après, il faut effectivement, en fonction des résultats, les communiquer régulièrement et dire voilà ce qui va être fait pour régler cette difficulté. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'elle va durer. Et en fonction de la durée, vous allez communiquer plus ou moins souvent. Une fois par jour, c'est pas suffisant. Il faudra peut-être communiquer même deux fois par jour.
Plus. Ce que disait Audrey Goutard tout à l'heure.
Et puis ensuite, après, une fois que tout ça est en train de se résorber, vous communiquez une fois par jour, une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours.
Ça, c'est la bonne méthode.
Mais ça, c'est la bonne méthode. Et il faut marteler sans cesse qu'on fera preuve de transparence pour que ça fonctionne. Sinon, évidemment, vous laissez la place à la suspicion. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des habitants qui s'organisent pour contrecarrer ou qui ne croient plus la parole de la puissance publique.
La ministre devant la commission développement durable de l'Assemblée nationale, Stéphane Vernet, c'est nécessaire hein, pour vous. Qu'il y ait cette explication-là devant la représentation nationale.
Juste apporter une précision. Je pense que les habitants de l'agglomération de Rouen, ils ne veulent pas être rassurés, ils ne veulent pas être câlinés, ils veulent être informés.
Oui, c'est
pas du tout la même chose. Or, l'exercice de transparence qui consiste à dire on met tout sur la table, y compris la liste complète des produits polluants qu'il y a ou des produits qui ont. Mais on s'en tamponne. Je veux dire, moi, j'ai pas un doctorat en chimie, je suis pas médecin. Enfin, je veux dire, personne ne sait. Là où le Premier ministre est bon, c'est cet après-midi quand il dit personne ne sait. Et c'est ça qu'on attend de lui. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils disent les choses telles qu'elles sont. On ne sait pas. On va y travailler. On va réfléchir. On va étudier la question. Ça prendra du temps. Je pense que par rapport à ce qui a été dit, effectivement, le point clé, c'est de l'information, mais de la vraie information.
Encore
et pas
mot,
autre chose.
Oui, encore un mot avec vous là-dessus, Audrey Goutard.
Surtout qu'on est on n'est qu'au début, si vous voulez, de tous les mystères qui vont être soulevés dans cette affaire. Je vous rappelle que cette entreprise appartient au groupe Warren Buffett, qui a pondu un communiqué hier, si je me souviens bien, en expliquant que on ne savait pas comment cet incendie avait pris, que les caméras de surveillance disaient des choses, que aujourd'hui vous avez des informations qui sortent disant que des personnes se circulaient autour du site juste avant l'incendie. Ce qui est peut-être tout à fait un hasard. Bref, personne ne voudra payer la note de cet énorme incendie. Donc, de toute façon, chacun a intérêt à faire monter les enchères sur les responsabilités des uns et des autres. Donc, si vous voulez, on est vraiment au début de la crise, en fait, et la communication, là, est essentielle.
Voilà, oui, un dernier mot.
Ce qui est particulièrement problématique, c'est que c'est un site Céveso classé risque haut.
Absolument.
Donc, s'il y a un site sur lequel il faut communiquer avec la plus grande transparence, c'est pour un site comme ça.
Allez, pendant ce temps, à Bruxelles, Sylvie Goulard, comme l'expliquait tout à l'heure Jules de Kiss, a été malmenée face aux eurodéputés, c'était aujourd'hui, lors de son audition, et bien sûr, l'emploi présumé fictif de l'un de ses collaborateurs. La candidate d'Emmanuel Macron à la Commission européenne a lancé un « I am clean » très remarqué et en a appelé à la présomption d'innocence.
D'abord, la présomption d'innocence est une liberté fondamentale. Elle est inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'Union, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Constitution française. Je me sens très sereine et confiante parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas mise en examen. Je ne peux pas préjuger de l'issue d'une procédure, évidemment. Il appartient à la justice de se prononcer. Donc, bien entendu, je respecterai, si elle advient, la décision de justice.
Maëlle Thierry, apparemment, ce n'est pas gagné pour elle.
Non, bah, là, déjà, c'est assez compliqué d'expliquer qu'effectivement, elle n'est pas mise en examen, mais qu'en même temps, quand elle a été nommée ministre des Armées par Emmanuel Macron, elle-même, on a tiré une forme de conséquence immédiate en démissionnant de l'enquête qui était ouverte. Donc, ce qui était valable en France... les moins à Bruxelles, en tout cas, enfin c'est ce qui lui revient d'expliquer. Ouais. Après, le profil de Sylvie Goulard, c'est un profil sur le papier qui, enfin, tout à fait correspond tout à fait à l'ambition européenne que voulait afficher Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de choix
de légitimité,
cohérent, logique,
en quelque
absolument,
sorte.
Oui. Absolument.
Audrey Goutard, plusieurs eurodéputés ont laissé entendre après cette audition, eh bien qu'ils allaient réclamer à la française de nouvelles clarifications par écrit. C'est ce que prévoit d'ailleurs la procédure.
Hein. La procédure prévoit effectivement que les eurodéputés peuvent réclamer des précisions, Alors je vous rappelle en plus que Sylvie Goulard fait l'objet de plusieurs fronts, c'est-à-dire que il y a l'enquête judiciaire, effectivement, sur les emplois fictifs. Et puis, souvenez-vous, il y a aussi ces informations qui sont sorties et qui ont choqué certains eurodéputés sur le fait qu'elle avait travaillé pour les Américains. Donc, si vous voulez, visiblement, une partie des eurodéputés ont le souhait de la diaboliser, si vous voulez, et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas obtenir le job.
Stéphane Vernet, il a pris un risque, le chef de l'État.
Alors moi, j'ai regardé l'audition de Sylvie Goulard cet après-midi. Je trouve qu'elle s'est particulièrement bien défendue dans un contexte qui est difficile. Mais le choix, j'ai envie de vous dire, le choix est bon parce que c'est quelqu'un d'opiniâtre qui lâche pas l'affaire, qui connaît ses dossiers. Bon, sur les questions qui lui sont posées, elle répond quoi? Elle dit oui, en France, j'ai démissionné parce que le contexte, la situation était totalement différente. Depuis, j'ai été auditionné par la justice. Je n'ai pas été mis en examen. Elle l'a répété à plusieurs reprises. Et puis, il lui a été reproché par certains députés qui l'ont interrogé cet après-midi le fait qu'elle ait remboursé 45 000 euros de sa poche en disant, bah, si vous avez remboursé, en gros, c'est donc que vous avez des choses à vous reprocher. Elle répond très bien. Elle explique qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est séparée d'un attaché parlementaire, que le travail de son attaché parlementaire a été reconnu après enquête du secrétaire général du Parlement européen comme un travail réel, et que le problème vient du fait que, au lieu de le licencier de manière sèche, elle l'a gardé à son service alors qu'elle ne lui confiait plus de travail parce qu'elle voulait en fait s'en séparer, et que pendant une petite période qui a duré je ne sais pas combien de temps, elle continuait à le payer, et qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et elle n'a pas été la Commission européenne, qui est quand même très dure dans ce genre de procédure, a reconnu qu'elle n'aurait pas dû faire ça, mais qu'il n'y avait pas de pénalité, qu'il n'y avait rien de pénal, et elle a remboursé les 45 000 euros qui étaient...
les explications qu'elle a données.
Et en redisant que ce n'est pas 45 000 euros qu'elle s'est mis dans la poche.
Driss Aitoussef,
c'est le contraire.
Il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, elle est mise en cause pour des faits lorsqu'elle était députée européenne. Donc l'affaire de l'assistant parlementaire était députée européenne, et le think tank américain pour lequel elle percevait une rémunération de 10 000 euros par mois, c'était effectivement, en même temps, c'était une rémunération pas par elle, parce qu'elle avait le droit de travailler. Et donc, aujourd'hui, c'est la question de confiance, en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous allez faire demain? Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? D'autant plus que l'enveloppe, ou en tout cas les missions que la Commission européenne souhaite lui confier, c'est le marché intérieur. Donc c'est vraiment un très gros poste, un poste stratégique. Donc il est normal qu'à un moment donné, les eurodéputés aient effectivement la siège de questions.
Oui. Et délai de réflexion et réponse attendue, je crois que c'est demain, vraisemblablement. Allez, 20h51, pardon pour le retard. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
La nouvelle proposition de Londres sur le Brexit est considérée comme une avancée, mais suscite beaucoup de scepticisme chez les Européens. Il reste des points problématiques, d'après le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Encore beaucoup de travail, estime pour sa part le négociateur en chef à Bruxelles, Michel Barnier. Boris Johnson propose un compromis sur la frontière irlandaise. Point de clivage entre les deux parties. S'il n'est pas accepté, alors le Royaume-Uni quittera l'Union européenne sans accord le 31 octobre, prévient le Premier ministre britannique. La préfecture de Seine-Maritime ordonne le retrait de fûts encore abîmés sur le site de l'usine Lubrizol à Rouen. Ils sont une source d'odeurs gênantes et d'émanations. D'après les autorités, il est possible que l'incendie ait entraîné la diffusion de dioxine dans l'air, des matières toxiques retrouvées en quantité relativement faible sous le panache de fumée. De très nombreuses matières différentes sont parties en fumée jeudi dernier. Personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent, a reconnu ce matin la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle attend les résultats de nouvelles analyses. Le mouvement social enfle en Irak alors que les manifestations sont émaillées de violence. 7 personnes, dont un policier, sont mortes ces dernières 24 heures. Les opposants au gouvernement appellent maintenant à la grève générale pour demander plus d'emplois et de services publics. L'effondrement d'une mine d'or artisanale au Congo fait au moins 14 morts. Des recherches sont en cours. Plusieurs dizaines de personnes travaillent sur ce site, dont des enfants et des femmes enceintes. Et puis dans 10 minutes, Lille reçoit Chelsea. Lyon se déplace à Leipzig en Autriche. 2 matchs sont déjà terminés dans cette Ligue des champions de football. 0-0 entre Naples et Genk, alors que Dortmund s'impose 2-0 à Prague.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Et à prendre ou à laisser déclarer, acclamer Bojo, Boris Johnson, pour cette énième proposition de sortie de Brexit. On finit par ne plus rien comprendre dans cette affaire. Écoutez ce que le Premier ministre britannique a déclaré devant le congrès des Tories à Manchester.
En ce moment même, alors que les électeurs voudraient qu'on se concentre sur leurs priorités, on continue de se concentrer sur le sujet très compliqué du Brexit. Mais ce que les gens veulent, ce que les partisans du Brexit veulent, et ce que le monde entier veut, c'est qu'on en finisse calmement avec le Brexit et que l'on passe à autre chose. C'est pourquoi nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive, finissons-en avec le Brexit.
Alors on va essayer de donner des informations à Audrey Goutard. Donc il y a une certitude, le 31, les Britanniques sortent, ça c'est fait.
Ça c'est fait, voilà, c'est fait. Exactement.
Alors, ensuite, check, c'est ça, c'est très bien comme ça. Ensuite, il n'y a peut-être pas forcément de deal, c'est un no deal. On ne sait pas trop.
Et il est compliqué de le dire, puisque lui fait une proposition, à voir ce que répondra l'Europe. On est reparti sur un débat avec, au centre, quelque chose de...
Il reste plus beaucoup de temps. Il reste trois semaines.
Avec un point ultra sensible qui est l'Irlande, évidemment.
Ah voilà, c'est ça. L'Irlande du Nord, Idriss Aït Youssef, vraisemblablement va à moitié rester un peu au sein d'un accord douanier avec l'Union européenne. C'est un peu bancal, tout ça.
Oui, alors c'est un peu bancal. Il y avait 5 points, et sur, effectivement, même si Jean-Claude Juncker a reconnu qu'il y avait effectivement des avancées, c'est toujours ce filet de sécurité, ce backstop, qui pose une vraie difficulté, parce que l'Irlande du Nord, c'est une des 4 nations du Royaume-Uni. Donc les Britanniques considèrent que c'est une atteinte inacceptable à leur souveraineté. Donc là, ça peut se faire en 2 temps, c'est-à-dire effectivement, pour le moment, l'Irlande du Nord qui resterait dans le marché intérieur, effectivement, et qui serait soumis, effectivement, au même droit que les autres pays membres de l'Union européenne. La difficulté, c'est que le Royaume-Uni ne veut pas être pris dans un piège où il faudrait l'accord des 27 pour permettre, effectivement, à l'Irlande du Nord de sortir, ce qui pourrait être extrêmement compliqué. Donc, tout ça est en train de se mettre en place, gentiment. Il reste encore 29 jours avant le 31 octobre, donc on a tous, effectivement, espoir que nous ne soyons pas fâchés avec nos amis britanniques.
Alors, voilà. Il y aura une nouvelle demande, une suspension souhaité par le Premier ministre pour quelques jours, c'est à partir donc là de mardi. C'est parce qu'il y a le discours de politique générale lu par la reine d'Angleterre, mais ça c'est normal. Maëlle Thierry, vous pensez qu'on va en sortir un jour de cette affaire ?
J'en ai aucune idée. Je trouve que c'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est absolument illisible pour les citoyens que nous sommes.
Y compris pour les journalistes. Hein. Ça devient compliqué.
Je me mets à la place des citoyens anglais face à ce spectacle à rebondissement quotidien, d'heure en heure. Les prises de position sont invalidées dans l'heure suivante. En tout cas, ce qui sortira au moins de cette période, c'est qu'il y ait Boris Johnson. C'est-à-dire, jusque-là, il avait quand même fui la responsabilité, la milité pour ce Brexit et fui les responsabilités quand c'était agi.
Et là, il est au cœur du cyclone.
Là, il est au cœur du cyclone et on va voir si effectivement ça peut être un homme de compromis ou de...
Ouais, Stéphane, sortie de crise. Stéphane Dardé, pour prolonger ce que dit Maëlle à l'instant, est-ce qu'il y a une souffrance du peuple britannique aujourd'hui par rapport à cette situation, selon vous?
Oula, alors là, vous me posez une bien grande question. Moi, je suis pas dans la tête du peuple britannique dans son ensemble. J'ai cru comprendre, en fait, qu'ils sont très divisés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui veut absolument sortir. Partie de la population qui veut absolument rester, qui sont à peu près équivalentes. Et vous avez, en fait, un noyau dur ou un corps entre les deux de gens qui veulent que ça s'arrête. Sortir ou pas, ils veulent surtout que ça s'arrête. Ce qui est peut-être intéressant, si vous me permettez, c'est que dans cette espèce de... C'est aussi un gros problème de politique intérieure pour Boris Johnson. Je vous rappelle que le 6 septembre dernier, le Parlement britannique a adopté une loi pour le contraindre à demander un report de 3 mois s'il n'arrive pas à un accord. Et là, il est en train de nous dire que, accord ou pas, de toute façon, le 31, la Grande-Bretagne sort. Et alors, la subtilité, c'est là que ça devient formidable, c'est que la loi qui a été votée par le Parlement britannique oblige Boris Johnson à demander un report de 3 mois s'il n'y a pas d'accord. Et donc, on s'attend à ce que Boris Johnson demande officiellement un report, parce que la loi l'y oblige, et dans la minute qui suit, disent finalement j'annule ma demande de report, lui permettra de sortir quand même le 31. Ouais, voilà où on en est, c'est quand même assez exceptionnel. Sauf
que pour rajouter juste un peu de complexité à la complexité, Boris Johnson vient d'annoncer qu'il demandait la suspension du Parlement à nouveau du 8 au 14 octobre.
Oui, mais ça c'est prévu, c'est par rapport à la reine d'Angleterre, donc c'est pour un discours, mais c'est officiel. Tout va bien.
Très bien.
Allez, tiens, vous avez la main, qu'est-ce que vous nous proposez dans ligne directe, cher Audrey Goutard.
Eh bien, nous allons balayer l'actualité de la semaine avec Bernie Bonvoisin.
Super. Trust. Super. Allez, à ne pas rater, c'est vendredi. Maltiri, la une superbe de l'Obs cette semaine.
C'est sur Marlène Schiappa et le Grenelle contre la violence faite aux femmes.
Oui, de ce dossier passionnant et très belle une du magazine. Je vous invite à vous le procurer en kiosque. Je vous dis merci à tous les quatre, Audrey Goutard, Driss Aitoussef, Maltiri et vous, Stéphane Vernet. Je vous dis pour ma part, à demain pour une prochaine édition des Informés de France Info.